RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds.
Basket Time, votre rendez-vous basket sur RMC tous les mardis sur rmc.fr avec la Dream Team. C'est un spécial finale NBA. Stephen Brun, Arnaud Valadon, Fred Weiss, bonjour messieurs.
Bonjour.
Êtes-vous prêts pour la finale Denver-Miami?
Oui.
Écoute, on va être prêts, ouais, je peux.
J'ai une petite question pour démarrer. Est-ce que l'un d'entre vous s'est réveillé pour voir le match 7 entre Miami et Boston?
Moi.
Stephen, t'as regardé jusqu'au bout?
Non. Je me suis levé, je me suis réveillé en deuxième mi-temps et 20 minutes après, je suis parti me recoucher.
Ouais, c'était réglé.
Voilà, exactement.
Arnaud. Ce matin, en replay avec la NBA qui propose juste les possessions. Donc ça réduit quand même le match à 40 minutes. Donc
Fredo,
c'est pas mal.
Tu t'es réveillé?
Je me suis pas réveillé cette nuit.
Oh,
c'était la première nuit où j'ai voulu dormir. Désolé.
Ah, il a le droit. Non.
Il a le droit, mais ça dépend des passionnés de basket.
C'est meilleur tard. Les stats, tous les trucs, quand même. J'ai tout lu, évidemment.
Oui, les stats, tout lu. Je m'en fiche. C'est le direct qui compte quand même, non?
Direct, c'était tendu.
Bon, j'avoue, dans ces cas, je mets un réveil sur le trou de quatrième carton, je regarde le score, si c'est pas intéressant, je me rendors. C'est ce que j'ai fait pour ce match 7. Alors du coup, on a une finale inédite entre Denver et Miami. Miami en finale, qu'est-ce qui explique ce parcours historique? Je vous rappelle qu'ils étaient 8e de la saison régulière à l'Est. Denver injouable, on va bien sûr rentrer dans cette finale. Denver est favori, voire archi-favori, mais Miami a déjoué les pronostics jusque-là. Et puis dans la partie historique, vous me raconterez la première finale de quelqu'un ou d'une franchise. Un joueur ou une franchise, sa première finale NBA, que ce soit un succès ou un échec. Le quiz, j'ai choisi un thème très tardivement. Vu que Jokic et Butler n'ont jamais été champions NBA, et ben on va faire un quiz sur les grands joueurs qui n'ont jamais été champions NBA.
Karl Malone,
ça peut être une des réponses. Ça peut être une des réponses.
John Stockton.
Ça peut être une des réponses, voilà. Vous avez compris.
Stephen Brun.
Ah, j'ai pas pensé à le mettre.
Ça peut être une réponse aussi.
J'aurais dû le mettre. Allez, c'est parti.
Arnaud Valadon.
C'est un spécial final NBA Basket Time tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Miami.
Robinson, bam, Adebayo will slam it in. Duncan Robinson, the assist. Adebayo. The Miami Heat stand eye to eye with history, and they did not blink. The Heat are going to the NBA Finals.
Le Heat en finale NBA, on va revenir sur cette performance incroyable parce que le Heat, après avoir fait tomber Chicago, Milwaukee et New York, a éliminé Boston. Je pense qu'à chaque tour, peut-être à part New York, il n'était pas favori. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
On est d'accord avec ça.
Bon, Milwaukee et Boston, évidemment. Mais même Chicago, il n'y avait rien de fait. Hein. Ils avaient perdu contre Atlanta quand même en play-in. Hein.
Oui, c'est ça qui était surprenant. C'est ça qui les a remotivés. Et contre Chicago, ils sont menés assez longtemps et presque jusqu'à la fin. Hein. Ils ont 4 points de retard, donc ça a été compliqué.
Alors Miami, 8e de la saison régulière à l'Est. Bilan 44-38. Normalement, ces équipes-là ne vont pas en finale NBA. C'est quand même rarissime. Enfin, je ne sais pas, est-ce que ça vous étonne? Est-ce que vous êtes aussi étonné que je ne le suis, messieurs?
Bon, Miami, c'est difficile de dire qu'on est étonné parce qu'on sait qu'ils sont, ils sont capables de n'importe quoi, on sait. Mais c'est vrai qu'aller aussi loin, battre les Bucks, battre des équipes comme ça, franchement, c'est super chaud. Et Boston, au match 7, là-bas, félicitations quand même.
Non, c'est malgré tout surprenant, même si cette équipe-là a l'habitude ces dernières années d'aller loin en play-off. Donc il y a une base qui est construite, il y a un coach qui est là depuis X années, donc ils se connaissent bien, ils ont un leader qui est Jimmy Butler. Après, ils ont été fantastiques de résilience et de passion, mais après, ils bénéficient aussi, je trouve. Ils tapent les Bucks très bien.
C'est la faillite des autres.
Moi, je trouve que c'est la faillite des autres aussi.
Non, mais alors, quand ça se reproduit trois fois.
C'est possible qu'il y ait une faillite des équipes trois fois. Enfin, après, New York, c'était une match-up qui était quand même favorable pour Miami. Les Bucks se sont complètement crashés. Et après, Boston, on va en parler tout à l'heure. Enfin, Boston, quelle déception. C'était pour moi le meilleur roster quasiment des quatre derniers finalistes de conférence. Et puis, ils se sont sabotés. En fait, les Celtics et Miami étaient là, en petit filou, à attendre qu'une équipe joue mal et faire déjouer cette équipe-là. Ils ont été là. Alors, c'est surprenant, oui, par rapport au classement et tout ça. Mais ils ont bénéficié. Je ne vais pas te dire que que c'est, ils ont bénéficié de d'avantages importants pour être en finale. Ils ont été très bons, mais il y a des circonstances, je trouve, atténuantes pour les retrouver là.
Moi, je rajoute les Sixers aussi, même s'ils sont fait taper par Boston. Mais la faillite vraiment des gros à l'Est, qui est assez marquante. Les Bucks, franchement, je les imaginais pas sauter dès le premier tour. Et Miami, par son expérience, son organisation, le coach, malgré les blessures, Oladipo, héros, un butler. Il y en a même certains qui disaient, on a l'impression de revoir Michael Jordan sur le niveau de
Jimmy Butler sur ses finales. Si tu t'en souviens pas.
Si, je l'ai lu ailleurs.
Mais parce que les autres nous suivent, on est un leader d'opinion incroyable.
On n'est pas là pour diminuer la performance de Miami. Bien au contraire, parce que c'est fantastique. Après, il joue les Bucks où Yanis loupe deux matchs, je crois, ou deux matchs et demi.
Joe Holiday se trouve.
Après, il joue New York. Bon, il leur
Eux-mêmes, il leur manque Tyler Hero et Oladipo.
Oui, aussi. Mais, enfin, moi, je suis déçu en fait.
Être là au bon endroit, au bon moment, qualité, ça fait partie du truc. Et en plus, le cœur que met cette équipe.
Il faut être capable de saisir ces opportunités-là.
Évidemment, et parce que ces opportunités, elles sont présentées effectivement, mais ils ont été capables d'élever leur niveau de jeu. Alors, Jimmy Butler, bien sûr, en tête d'affiche, mais pas que. Donc, franchement, pour moi, c'est mérité, c'est assez fantastique.
Si on pose la question, est-ce que c'est Miami qui a gagné ou Boston qui a perdu, vous auriez tendance à dire quoi ?
Miami qui a gagné, non, ça.
Miami qui a gagné, toi aussi, Fred ? Steve, pas trop.
Non, moi je pense que c'est Boston qui a perdu. Boston s'est saboté déjà sur le début de cette finale de conf. En étant mené 3-0, ils ont fait une semaine catastrophique.
Ils se sont sabotés pourquoi ? Parce que en face, il y avait Miami qui jouait dur. C'est des chatons qui ont joué contre des tigres.
Après, Boston, ils se sont sabotés sur tous les playoffs.
Surtout sur le match 7, ouais. Non ?
Après, sur le match 7, ils perdent Tatum, fait qu'ils jouent, parce que tu peux pas sortir un mec comme ça sur un match 7, sur un do or die game, t'es obligé de le laisser sur le terrain, mais il peut pas jouer.
Est-ce que vraiment ils auraient pas dû le sortir?
Non, tu peux pas sortir un mec de ce calibre-là sur un match 7.
Imagine l'image qu'il aurait donné s'il sort à ce moment-là, c'est encore pire.
Combien de superstars on a vu boiter, Paul Pierce, fauteuil roulant, qui revient jouer, c'est-à-dire que Tatum, il abandonne un match 7 parce qu'il se fait une entorse de cheville, rappelez-vous Jimmy Butler contre New York, qui s'est détruit la cheville, malgré tout, qui reste sur le terrain, sur un match 7, sur un match.
Michael Jordan avec ses Nike trop petite.
Exactement, le flou game, Michael Jordan qui est malade. Non, John Tatum, il a eu raison de continuer.
Ouais, mais normalement, t'écris ta légende quand tu fais ça. Tu es capable de te sublimer et d'oublier que t'as mal et de jouer encore
pas,
mieux.
Après, on connaît pas, ça se trouve, il est out 3 mois, ça se trouve.
Honnêtement, je sais très bien qu'il y a des mecs qui ont été out plein de temps après, mais qui ont fait les matchs, qui sont là, qui ont montré que c'était vraiment des boss. Et là, il fait pas un match de boss.
Après, je me rappelle que Kobe a juste shooté de lancer franc avec un temps en moins. Par contre, il aurait pu continuer. Hein.
Non, mais imagine, lui, il se déplace pour chez lui.
Non, mais Boston, moi, je les ai trouvés. Enfin, c'est une déception pour moi. Est-ce qu'on est sur une fin de cycle à Boston? Il faut tout faire péter, je sais pas.
Carrément, tout faire péter.
C'est une quatrième finale de conférence perdue. Quatrième finale de conférence perdue sur les 6 dernières saisons ou les 7 dernières saisons. Il y a une finale NBA où ils ont perdu.
Ça veut dire aussi 4 finales de conférence.
Ah oui, mais à un moment donné,
après le cas, une finale NBA. Non, mais je suis d'accord. Sauf que, est-ce que tu construis pas sur ça, tu continues à gagner de l'expérience? Alors oui, évidemment, c'est une déception et je peux pas te dire le contraire. Mais est-ce que tu construis pas sur ça en te disant, ben voilà, on a quand même réussi à être dans le top de la NBA pendant plusieurs
mois.
Je pense que tout le monde a compris que Tatum et Brown, ça va pas marcher.
Donc il faut trader Brown alors.
Après, oui. Brown n'a pas marqué beaucoup de points hier. Parce que Tatum blessé, c'était à lui de prendre l'équipe en main. Il a vendangé, il fait 8-23 au tir, il perd 8 ballons.
Un citron sur la défense
de Miami, il a fait n'importe quoi. Il s'est troué hier.
Ils ont tous fait n'importe quoi. Le premier quart-temps, enfin, à un moment donné, le basket, le principe du sport, c'est de mettre des tirs. Ils finissent le premier quart-temps à 0 sur 10. Alors, à un moment, Miami, c'est pareil, hein, il y a un gros problème d'adresse. Il y avait, je crois, c'était 9-8 après 7 minutes de jeu. NBA, franchement. Mais Miami, tu avais l'expérience Sovis pour dire, on sait que l'adresse, ça va tourner. Ils n'ont pas paniqué, ils ont continué à prendre des bons tirs. C'était du fer à cheval, Boston. Moi, j'étais dégoûté en voyant ce qui était proposé.
Mais t'es pas surpris de ce que propose Boston. Non. Boston, le plan de jeu de Boston,
c'est
Tatum, Jalen Brown, c'est les individualités, et c'est on canarde à 3 points. Voilà ce qu'ils ont proposé en playoff.
9 sur 42 en finale, c'est compliqué quand même.
Alors que Miami a proposé l'alternance.
Normalement, ils sont capables de faire autre chose, Boston, quand même.
Non, cette saison, ça a été que ça, Boston. Ouais. Ça a été que du tir à 3 points.
Les jours où tu mets, t'es fantastique.
Sauf, que t'as Tatum et Brown qui sont des superstars. Donc forcément, sur une saison régulière où ça défend un peu moins bien, ils gagnent des matchs parce qu'ils ont des joueurs autour. Mais à un moment donné, quand il faut travailler un peu, ils sont rentrés dans le piège imposé par Spoelstra avec cette espèce de zone match-up où qui te donne des tirs tout de suite sur les premières possessions où t'es grand ouvert. Et eux, comme des citrons, on est ouvert, on tire. Ils ont tiré toute la soirée.
Ouais,
une passe,
pas
un tir. Une passe, un tir.
Je rejoins Arnaud. Est-ce que c'est pas du coach qui prend pas un temps mort en disant écoutez les gars, justement, on n'est pas des citrons, ils nous donnent les tirs, on les prend pas tout de suite.
Oui, mais il est plus écouté, Mazzuola. Il y a eu une cassure à un moment donné où il a perdu, tu sens qu'il a perdu la confiance du groupe. Il y a eu de l'autogestion où ils ont réussi sur l'orgueil à revenir à 3-3, ce qui est quand même aussi une grosse performance. Mais tu ne m'ôteras pas le fait que, allez, au moment où ils prennent le 3-1, le 3-2, il y a un peu de gestion du hit qui sait que sur une série, il y a ce match 6 qui est vraiment la clé.
Enfin, sur le match 6, il n'y a pas de gestion possible.
Ça, on est d'accord. C'est clair. Ça, on est d'accord. Sur le match 6,
sur le match 5, il a bien coaché. Il a fait des adaptations sur la défense de zone, il a mis le ballon poste haut, ça a été bien.
Mais moi, j'ai senti une équipe en autogestion et ça a explosé sur ce match-là parce qu'ils n'ont pas mis un panier. À 3 points, l'adresse est horrible.
Et est-ce qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts aussi pour revenir dans cette finale?
Alors, c'est à un moment, ils reviennent à moins 10, à moins 8, et là, tu as Butler qui ressort, qui met un 3 points. C'est juste avant la fin du troisième quart-temps. Je crois. Ouais. Et l'autre, il leur met un coup sur la tête et c'est fini. Et puis t'as
celui
un peu
où il est contesté par Tatum, où il tombe.
Il y a un peu le Garden qui se met un peu à douter, à voir les briques envoyées. Enfin, il y a eu des trucs immondes hier.
Et est-ce que les seconds coups entre guillemets sont pas un peu surcotés? Les Marcus Smart, les Derrick White. Est-ce que c'est pas
surcoté?
C'est assez fort pour être champion.
Oui, Malcolm Brogdon, Derrick White, Marcus Smart.
Problème au coude.
Oui,
il est vrai joueur de basket.
Il est blessé. Tu peux pas. Les seconds couteaux sont très bons. Maintenant, c'est stars en fait. À un moment donné, quand tu joues ce genre de match 7, Pierrot, c'est les stars qui doivent t'emmener en finale NBA. D'un côté, Jimmy Butler l'a fait avec un super héros plutôt inattendu, même Caleb Martin qui a été fantastique et qui a
failli être élu MVP. Hein.
5-4 pour Jimmy Butler. Et à côté, les superstars passent au travers. Mais après, Eric Spoelstra, il les sort, ces garçons. Hein. Moi, je demande de voir l'état de fraîcheur pour le match dans deux jours pour les finales NBA.
Avec surtout que Denver attendu pendant presque 10 jours.
On en parlera dans le talk numéro 2, mais ça me paraît, ça va être compliqué pour Miami.
Et bien alors, c'est parti, spécial finale Denver-Miami. On va passer donc à cette finale NBA.
Again, it'll be a tall task with Miami Heat. Joker is the best player in the league. He's playing great. Jamal's playing some inspiring basketball, but
the bench,
the Miami Heat, the others, the way they're playing, I'm not going to count them out.
The last time Miami won at Denver, November 30th, 2016, 106-98, Joker and Jamal Murray both coming off the bench.
That's hilarious.
On that.
Joker's been the best player in the NBA playoffs so far. I will tell you this. Miami, they play hard, they play smart, they got a great coach, but I do not see anybody beating the Denver Nuggets.
I get those goosebumps every time. Alors, c'est un spécial finale NBA, c'est une finale inédite évidemment puisque c'est la première de Denver, donc les Nuggets joueront contre le Heat de Miami et comme votre anglais est parfait, vous avez compris que la dernière fois que Miami est allé gagner à Denver, eh bien, Jokic et Murray n'étaient que des joueurs de banc.
2016, ouais.
Ce qui veut dire que ça remonte à une éternité.
9-1 sur les 10 dernières confrontations.
Ce qui veut dire aussi que sur le papier, cette série est très déséquilibrée. Alors, vu ce qu'on vient de dire sur Miami, la question c'est est-ce qu'ils peuvent encore élever leur niveau d'un cran ? Est-ce qu'ils ont encore des ressources insoupçonnées ? Ou est-ce que cette finale va être une boucherie, Fred ?
Honnêtement, c'est impossible de pronostiquer le Heat. Le Heat et joue un basket incroyable. À chaque fois qu'on dit qu'ils ont touché leur plafond de verre, ils vont au-dessus. C'est impossible de pronostiquer. Franchement, je pense que cette équipe a tellement de ressources, tellement de volonté, et on a l'impression qu'avec Spoelstra, ils s'entraînent plus dur qu'ils ne jouent. Donc moi, je ne suis pas sûr qu'ils soient tant essorés que ça. Et finalement, est-ce que ce n'est pas Denver qui aura, avec ses quelques 10 jours presque de repos, perdu un petit peu le rythme.
Après 10 jours, ça veut dire qu'ils ont fait un scouting de l'espace sur Boston, sur Miami.
Non, mais le rythme de jeu, tu sais que c'est pas pareil. Quand tu t'arrêtes un petit peu comme ça, pendant les playoffs, quand tu vas arriver en finale, tu peux pas reproduire l'entraînement, ce que tu fais en match, c'est une évidence.
Ouais, mais après, t'as joué 90 matchs déjà. Ça démarre jeudi.
Oui, mais justement, est-ce que t'as, dans la saison, un moment où t'as 10 jours comme ça? C'est rare.
All-Star break,
Sauf que l'intensité des playoffs est pas le même. Donc, tu me dis que Ben, c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit ils arrivent super frais, super préparés, etc. Soit
ouais, ça, ben, ils vont avoir du mal à se remettre. Ça peut être un problème sur le premier match. Et puis après, ils vont régler non, mais tout ça.
Le premier match, c'est que ça va être important quand même, le premier match. Parce qu'il est difficile. Tu perds le premier match, ouais. Le premier ami à domicile.
C'est, ouais, ben, ils auront le temps de se remettre dans un rythme et d'imposer leur
après,
puissance.
Après, Denver, ils sont chez eux. Ils n'ont pas perdu un match des playoffs. Ils en ont perdu 7 sur la saison régulière. Là, ils vont affronter des mecs qui ont joué 44 minutes.
Et puis j'ai pas l'impression que le rythme, ce soit le problème de Jokic quand même. C'est un joueur qui joue à deux. À l'heure,
il joue en marchant, et puis je trouve que Denver...
le rythme imposé par le 8, pardon, c'est pas le même que les autres aussi. Hein. Mm-hmm. Eux, c'est les chiens de la casse, on l'a déjà dit, on le répétera à chaque fois. Eux, ils sont pas là pour blaguer, ils vont mettre une énorme pression.
Après, moi, je vois pas une match-up favorable pour Miami.
Ça, malheureusement, je suis d'accord.
Il y en a pas une.
Adebayo va se faire manger. Adebayo va se faire manger.
Il mange tout le monde, donc pourquoi il mangerait pas Adebayo?
Non, mais c'est une question, c'est sans arrière-pensée.
En plus, qu'est-ce que tu veux faire comme ajustement? Tu fais une prise à deux, le mec, il est tellement bon pendant la passe, t'es mort. T'es tu ne fais pas de prise à deux, Adebayo,
en fait,
il va se faire
masser. Jokic est le joueur qui te fait péter tous tes plans de jeu défensifs. Spoelstra est un génie du coaching, mais Jokic est encore plus intelligent que tous les coachs. C'est-à-dire que tout ce que tu vas lui proposer, il va te le faire péter. La défense de zone, il va aller sur du high post, il va jouer en tête de raquette, il va orienter tous les ballons, il va mettre les ballons au bon endroit. Aaron Gordon va être en mission défensive sur Jimmy Butler, et là ça va être un problème pour Jimmy B, parce qu'Aaron Gordon, depuis les playoffs, il est costaud, il est grand, il défend bien.
Intelligent.
Jamal Murray, sur le poste de meneur de jeu, bon, on a vu, hein, c'était quasiment le meilleur joueur de la finale de conf, Jamal Murray, et puis Mac Malone est un meilleur coach que Joe Mazzulla. Là, il n'y a pas photo, le coach des Celtics, donc lui aussi, il a des choses en magasin. Moi, limite, tu me demandes un pronom, je te dis 4-0. Hein.
4-0,
c'est fini, moi, je pense c'est fini dans 12 jours. Hein.
Mm-hmm. Tu vois, on part doser, ils prennent les deux matchs à Denver avec l'altitude en plus, la salle. Ils en prennent peut-être un à la maison, mais sur le match-up Adebayo contre Jokic, déjà Adebayo est un peu moins grand qu'Anthony Davis, qui je trouve a quand même plutôt bien défendu, même si il est presque indéfendable. Nikola Jokic, il fait quand même 2 cm de moins. C'est un bon joueur, Bam Adebayo, mais quand tu vois le niveau de Jokic, c'est
un
juste.
Bon joueur, il a détruit tous les meilleurs pivots de la ligue.
Oui, non, mais défensivement, enfin, c'est. D'accord, sur Adebayo. Mais là, Jokic, je pense que c'est trop dur. Mais la vraie clé pour moi, c'est Jamal Murray. On voit que sur les meneurs, les très forts meneurs, Jalen Brunson a performé, mais il n'avait personne pour l'épauler avec les Knicks, donc le Heat a pu en profiter. Je me pose des questions sur le fait que est-ce que le Heat va pouvoir ralentir Jamal Murray. Il n'y a pas que lui, on a parlé les Bruce Brown, les Michael Porter Jr. Ça peut aider Cal Twakey CP évidemment. Moi j'ai un petit doute sur le fait que est-ce que Murray ça va pas être le joueur de trop à canaliser pour ce Miami Heat.
Surtout pour Bobo Lloris qui va de moins en moins vite.
Ça va être compliqué pour lui. Hein,
ça va être difficile.
Mais c'est Murray qui fait la plus grosse différence. Parce qu'à la limite, tu peux te dire, ok, tu laisses Jokic, tu laisses faire son truc et de toute façon, il va te massacrer.
C'est la superstar, il va te mettre 30
sauf
et 10.
Murray qui t'en met 30 aussi, comment tu fais?
Après, t'as Michael Porter Jr. aussi qui est un attaquant fantastique. Bruce Brown qui est un défenseur hors norme.
Le danger est partout. Et ouais, Gordon qui est tellement toujours bien servi, toujours dans les bons espaces par Jokic. Franchement,
et t'as un cadre de jeu clair. Il y a du QI basket, ce qu'il n'y avait pas du tout à Boston.
Ouais, mais rappelez-vous ce qu'on a dit quand même avant qu'il joue contre Boston. Hein. Faut quand même qu'on se rappelle. On avait dit, logiquement, Boston devait s'imposer parce qu'il y a tellement d'options possibles. Sauf que Miami, c'est Miami. Et Miami, ils ont toujours des solutions.
Il faut les respecter.
Et alors, Miami devrait récupérer Tyler Herro au troisième match. Est-ce que ça change quelque chose ou pas?
Ça change quelque chose. Hein. Tyler Herro est quasiment un des meilleurs snipers de la ligue, un meilleur joueur maintenant.
Ouais, ça dépend dans quel état aussi.
Dans quel état ça va faire quoi? Ça va faire un mois et demi qu'il n'a pas joué. Et
opération
du poignet. Après, tu reviens à domicile. Mais ça peut être qu'un plus. Ça peut être un plus. Un mec qui va être frais.
C'est pour ça qu'ils ont fait exprès de perdre les trois matchs contre Boston.
Pour lui permettre de revenir. Mais Fred l'a dit, ne sous-estimons pas cette équipe de Miami. Maintenant, sur les match-up,
est-ce qu'il n'y a pas quand même un point positif pour Miami, que c'est un banc quand même très intéressant qui peut apporter plus que Denver?
Le banc est peut-être un peu plus large que Denver, j'ai l'impression, mais est-ce que ça compte vraiment? On l'a vu, on le dit à chaque fois,
tu joues à 7,
les rotations
7
sont réduites quand tu joues les play-offs, et alors les finales évidemment encore plus. Il y a quand même des joueurs, je rejoins Stephen, hein, il y a des joueurs quand même qui ont joué 43-45 minutes. Est-ce qu'ils vont pas être un petit peu cramés à un moment? Oui.
Si on parle de l'affiche en elle-même, est-ce que ce match vous excite ou pas? Parce que là, vous me dites 4-0, 4-1.
Je suis pas sûr qu'Adam Silver soit très content de l'affiche.
On est d'accord.
Ouais.
Mais Denver, ça sera peut-être.
Elle a été plutôt bien servie. Lakers Warriors, Lakers Denver.
Mais c'est sûr qu'une finale Lakers Boston était plus facile à vendre. Mais Denver en finale, bon, il faut que ça arrive un jour parce que de toute façon, ça peut être l'avènement d'un très grand champion aussi. Donc ça, c'est pas très grave. C'est peut-être le combo Denver Miami qui est pas très sexy sur le papier. Maintenant, ça peut peut-être faire des étincelles. Si Miami élève son niveau de jeu comme ils ont réussi à le faire jusqu'ici, ça peut être très intéressant si ça pousse.
Mais pour le public, c'est t'as entendu les déclarations de Gilbert Arenas qui a dit quoi qu'il arrive, même si ça sera une super finale et que Jokic sera hyper performant et sera magnifique, ça n'intéresse personne.
Gilbert Arenas a dit Jokic en fait ne fait pas kiffer les gens. Voilà. Il dit c'est le meilleur joueur
du
monde.
Mais c'est assez vrai. Aujourd'hui, en fait, qui est-ce qui aime le Jokic? Nous. Ouais. Parce qu'on est fan de basket, parce qu'on voit ce qu'il fait, etc.
Et les, et les supporters des Denver Nuggets.
Exactement. Sauf que Serbes. Concrètement, un mec qui connaît pas vraiment le basket, il voit Jokic jouer, il dit mais il va à deux à l'heure.
Tu sais, tous les gamins de 12, 13, 14, ouais, 15 ans qui s'y font billet pas le matin, ils se lèvent, les highlights de Jokic, ils le mettent à la poubelle. Eux, ils veulent voir du Jamorant.
Mais il n'y a pas de chaussures signature Nike, hein, oui, chez Jokic. Parce que jamais tu la vendras. Moi, j'achèterai, mais je serai le seul, je pense. Ou un des seuls.
Ça ne te fera pas mettre plus de paniers pour
non,
autant,
mais ça, ça sera stylé, quoi.
C'est vrai que si Nike ne fait pas une signature shoes à Nikola Jokic,
c'est pas pour rien.
Donc, qu'est-ce qui pourrait rendre cette finale légendaire? Peut-être des performances hors normes de Jokic.
Jamal Murray.
Une finale en triple-double, par exemple. Ça serait
Jimmy
fou.
Butler qui met 5
points. Butler, Murray qui s'affrontent de loin et Jokic.
Est-ce qu'il peut faire ça, tiens? Une finale en triple-double pour Jokic, ça peut arriver, ça?
Mais tout peut arriver avec Jokic. C'est un monstre. Tout peut arriver.
Ça n'a pas été déjà fait, ça? LeBron n'a pas déjà fait ça sur une finale NBA. Il me semble qu'il a déjà fait une finale en triple-double. Après, il y a des antécédents. Denver-Miami. Jimmy Butler avait voulu se taper avec toute l'équipe des Nuggets la saison dernière. Rappelez-vous que Nikola Jokic a détruit la saison du jumeau Maurice en lui mettant un énorme coup dans le dos l'année dernière. C'était un Denver Miami, donc il y a quelques antécédents. T'es pas à l'abri d'un tête contre tête et d'une petite bagarre qui pourrait faire passer cette finale NBA dans une autre sphère, mon petit Pierrot.
C'est une finale aussi qui c'est un peu la revanche des GM. C'est-à-dire que c'est sur du travail de fond, des équipes construites intelligemment.
Temps, patience.
Et c'est un joli pied de nez, ça, Pierrot.
Sans agglomérer.
Un joli pied de nez aux équipes
des mégastars,
qui prennent des mégastars en cours de saison, qui changent tout, parce que mine de rien, qui était favori? Phoenix, arrivé Kevin Durant en plein milieu de saison, terminé.
Philadelphie, peut-être.
Philadelphie avec Harden, Embiid, ça a pas marché.
Milwaukee, c'est une équipe construite aussi quand même.
Oui, une équipe construite, mais blessure de Giannis Antetokounmpo. Donc mine de rien.
Bon bref,
les Lakers,
exactement.
C'est une super finale qui n'intéresse personne, quoi, en gros.
Mais des nouvelles histoires à raconter.
C'est moins pour les néophytes, c'est vraiment pour les experts.
On va voir ce que fait Jokic surtout. C'est ça aussi l'attraction. Et puis, si jamais c'est Miami, Butler champion à 33 ans, c'est beau aussi.
Petit point stat sur LeBron James, effectivement, 2017, où il est tout seul à Cleveland, il perd 4-1 contre les Warriors, il est en triple-double avec 33 points, merci. 12 rebonds et 10 passes.
Quoi qu'il arrive, donc ce sera une première soit pour Butler, soit pour Jokic, et c'est l'objet donc de la partie historique.
Depuis que je suis tout petit, je rêve de titre NBA, de gagner ça. C'est le but ultime pour tout joueur de basket parce que c'est le championnat le plus dur au monde. Tu sais, gagner un titre NBA, tu sais, comme j'avais du mal à expliquer, c'est comme si gagner une Coupe du Monde, quoi. Pour un foot, tu vois, c'est la même chose. Gagner un Roland Garros pour un tennisman, c'est la même chose. Et donc, pour nous, c'est énorme.
Alors, donc vous allez me raconter la première finale, soit d'une franchise, soit d'un joueur. Alors, un joueur marquant, s'il vous plaît, hein, me faites pas la première finale de
Chris Dudley,
par exemple.
Et tu vois, c'est ça ton problème, Pierre.
De Chuck Eyes.
Non, mais c'est ça ton problème. C'est qu'on va prendre un joueur marquant, tu dis, vous n'êtes pas imaginatif. Vous
non,
êtes
non, pas du
tout. Ça n'intéresse pas le public, c'est comme la finale.
Ouais, non, moi j'attends des histoires importantes de la NBA. Première finale d'une franchise ou première finale d'un joueur. On va démarrer avec toi, Fred.
Eh bien, moi j'ai choisi un joueur pas commun.
Ouais.
C'est Michael Jordan.
Et ben voilà, c'est excellent, la première finale de Michael Jordan.
Je me suis dit que ça pouvait être
intéressant. Rafraîchis-nous la mémoire.
Il l'a gagné, non?
Il l'a gagné, en plus. Hein. J'ai l'impression qu'il n'en a pas perdu, d'ailleurs, des finales. C'est le 2 juin 91. Alors, Jojo est en finale pour la première fois de sa carrière. Il a 28 ans. Il vient d'être éliminé 3 fois de suite, hein, par Détroit. Et là, il réussit à les éliminer à son tour. Vous vous rappelez en plus de cette scène où Détroit se barre sans serrer les mains, etc.
C'était la grande classe, cette équipe des Pistons.
Ouais, moi, j'aimais bien. Bill Laimbeer, si tu nous entends. C'est contre Magic Johnson en plus. Le Showtime. Les Lakers ont réussi à se défaire de Portland. Et donc, ça va être une match-up hyper intéressante. Alors, il se trouve que Jojo est MVP des finales.
Qui est favori d'ailleurs?
Mais logiquement, Chicago, parce qu'ils ont fini premier la saison régulière avec 61 victoires. Mmh. Donc, très bonne saison régulière. C'est eux qui ont l'avantage du terrain, d'ailleurs. Donc, Jojo est MVP des finales et meilleur scoreur de la Ligue. Et donc, il est forcément à la recherche d'une bague à un moment donné. Et c'est le moment, justement. Et donc, sur le banc, on a Phil Jackson qui affronte Mike Dunleavy, qui a remplacé Pat Riley à la tête des Lakers.
Pat Riley qui va connaître sa 19e finale. Hein,
voilà, là. C'est ça. Exactement. Donc, comme tu disais, on est au Chicago Stadium. Premier match, match incroyable. On est à 30 secondes de la fin, 91-89 pour Chicago. Michael Jordan a le ballon dans les mains, il shoot, il rate le panier. Temps mort pour les Lakers. On donne le ballon à Magic. Magic fixe un petit peu, sort sur Perkins qui marque à 3 points, 92-91. Victoire, première victoire dans cette série pour les Lakers. Et Jojo aura fait un match plutôt correct. Hein. 36 points, 8 rebonds, 12 passes pour son premier match de finale. Mais match perdu, les Bulls vont enchaîner 4 victoires de suite pour devenir enfin champion NBA. Donc voilà, Michael Jordan qui était bien accompagné, hein, qui avait Paxton, B.G. Armstrong par exemple. Et de l'autre côté, il y avait Bill Cartwright, effectivement, Horace Grant évidemment aussi. Et de l'autre côté, il y avait Byron Scott, Divac, Campbell, Green, Worthy. Donc une très belle finale sur le papier, surtout une opposition de style, un peu un passage de flambeau et une finale de rêve.
Voilà, et Jordan qui bat Magic.
Qui, après avoir perdu le premier match, s'imposera 4 fois de suite.
Puis il y a un panier mythique où il arrive pour dunker.
Il monte à une main pour aller dunker, il change de main, il finit sur une main
genre,
gauche.
Genre ça n'intéresse pas de dunker, tiens je vais
comprendre. Ce qu'on appellera the move.
Et 20 ans plus tard, quand les Lakers avec Magic Johnson sont reçus à la Maison Blanche par Barack Obama parce qu'ils viennent d'être champions, Barack Obama, Chicagoan, fan des Bulls, se retourne un moment parce que voilà, c'est les Lakers, un peu les rivaux, et il retourne, il regarde Magic, il fait Magic, tu te souviens de 1991 Jordan? Et il mime le geste. Voilà, donc grand passionné évidemment de basket, Barack Obama.
Stephen, à toi.
Oui, salut Pierrot.
La première finale de qui?
La première finale de Dirk Nowitzki.
Ouais, c'est pas la plus belle.
C'est très intéressant. Je rigole parce que c'était tellement évident, mais vas-y.
En 2006, Dallas sort d'une saison à 60 victoires. En finale de conf, Dirk tape son ami Steve Nash avec un match 5 fantastique à 50 points, 11 rebonds. Et Dallas arrive en grand favori face à Miami. Le Miami de D-Wade, et de D-Wade uniquement, hein, puisque Shaq est un petit peu sur la jante. Et qu'en 2011, D-Wade sera accompagné de LeBron et Chris Bosh. Mais c'est D-Wade qui dirige cette équipe-là. Et ça a été un vrai traumatisme pour l'Allemand qui mène 2-0 en gagnant les deux premiers matchs à domicile. Et la bascule de cette série, elle intervient sur le match 3, plus 13 pour Dallas à 6 minutes de la fin, qui se dirige vers un 3-0 et donc quasiment un titre, puisque encore ce n'est jamais arrivé. Ça a failli arriver, mais l'histoire dit que quand vous êtes mené 3-0, jamais vous ne gagnez une série. Et là arrive le plus grand exploit de la carrière de D-Wade, qui va mettre 10 points en 6 minutes pour terminer la rencontre à 42 points, 13 rebonds et un tir qui appellera Michael Jordan face à Cleveland, ce hang time là, face à Craig Hilo, où il reste quasi 2 secondes en l'air. Miami va gagner 98-96 et Miami va remporter la série 4-2. Dirk ne s'en remettra pas. D-Wade continuera de marcher sur l'eau. MVP des finales, 34 points, 8 rebonds, 3 passes, 3 interceptions, 1 contre de moyenne. Logiquement, MVP des finales. Et Nowitzki, avant de gagner en 2011, il dira « Je n'ai jamais revu une seule seconde de ces finales de 2006 parce que c'était trop un traumatisme pour moi. » On rappelle que Dirk, après avoir perdu cette finale, je crois, s'exile dans une montagne, sans téléphone, sans rien. Il part en trek tout seul.
Il joue à la pelote avec des ours.
Exactement. Et le traumatisme durera une année supplémentaire puisqu'en 2007, Dirk est élu MVP de la saison régulière. Dallas gagne 67 matchs, mais se font sortir au premier tour des playoffs. Il faudra attendre 2011 pour qu'enfin Dallas et sa réputation de choker un petit peu prennent fin en s'imposant contre ce même D-Wade épaulé par LeBron et Chris Bosh.
C'est parfait, donc c'était la finale de Dirk Nowitzki en 2006, la première de sa carrière. Quelle première vas-tu nous raconter, Arnaud?
Tony Parker 2003.
Bon, voilà, Jordan, bah oui. Nowitzki, Tipeee, j'aime, I like it. Merci beaucoup.
Parce que c'est évidemment ce qui fait rentrer Tony dans une autre dimension. C'est sa deuxième, enfin, drafté en 2001, donc c'est sa deuxième saison. C'est le premier Français en finale NBA. Avec les Spurs, ils font une magnifique campagne. Ils tapent quand même les Lakers, qui étaient sur leur three-peat, hein, avec Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. Ils retrouvent les Nets, c'est à l'époque où un petit peu la conférence Est est décrite comme faiblarde. Dis-toi que le meilleur bilan à l'Est, c'est les Pistons en saison régulière. S'ils étaient à l'Ouest, ils seraient 7e avec ses 50 victoires. Donc finalement, les Nets arrivent, ils tapent Détroit en finale de conférence. Donc tout le monde parle du duel. Jason Kidd, Tony Parker, évidemment, il y a Tim Duncan en face, mais il y a vraiment un focus sur Jason Kidd. On peut le dire, messieurs, 2003, on est sur un prime Jason Kidd.
Oui,
hein.
Oui, oui.
15 points, 10 passes, voire 9 passes. Et donc, les San Antonio Spurs s'imposent. On est à l'époque sur un format 2 matchs chez l'équipe la mieux classée, 3 matchs chez l'équipe la moins classée, et on finit par les
J'aime
deux
bien
matchs
ça, d'ailleurs.
Chez la mieux classée.
Ouais.
Bah, attends, c'est 2-2, 1,
en fait, ça limitait un peu l'influence de...
C'était écologique, en plus.
De l'avantage du terrain.
Ouais. Mmh.
Continue.
Les Spurs s'imposent 4-2 avec un très bon Tipeee, meilleur marqueur du match 3 qui fait peut-être la bascule parce qu'on est à 1-1 à ce moment-là. 26 points pour Tipeee qui finit le deuxième meilleur marqueur des Spurs derrière un immense Tim Duncan qui était à 24 points, 17 rebonds. Tipeee 14 points, 3 rebonds, 4 passes avec des bons pourcentages au tir. Évidemment, ce duel avec Jason Kidd qui était dans toutes les têtes. Et écoutez, on a retrouvé cette petite séquence. On est dans le vestiaire des Spurs, très Frenchy, vous allez voir, parce que Tony est entouré de ses amis, dont son frère, notamment TJ, et écoutez aussi la petite voix un petit peu fluette de Tony qui, à l'époque, n'a que 21 ans. Scandé dans le vestiaire des Spurs, hein, le « On est les champions hein. ».
Il y a eu tellement de pression pendant cette série par rapport avec Jason Kidd et tout ça. Ouais. Maintenant qu'on a gagné,
un gamin.
Maintenant on va me laisser tranquille et tout. Maintenant c'est bon, voilà. C'est tranquille.
C'est dur.
Maintenant le prochain titre, équipe de France, on va essayer d'aller au bout. Ouais. Champion d'Europe.
On enchaîne, les gars. On enchaîne, les gars.
Il est champion NBA, il pense déjà à l'équipe de France. On ne fera pas une mauvaise campagne, hein. L'Euro 2003, on fait demi-finale battu par la Lituanie de Yasukevicius. Par contre, peut-être que le match contre l'Italie et la troisième place, on le perd. Ça, c'est un peu plus discutable. Mais voilà, Tipeee, ça le fait rentrer évidemment dans une autre ère, à la fois médiatique en France. Il gagne. Il a gagné un titre NBA, il est français, titulaire, et même aux États-Unis parce qu'on connaît l'histoire derrière, avec un Ginobili qui jouait très peu à l'époque, il met 8 points sur ses finales. Donc déjà, Tony est un peu considéré comme le premier lieutenant de Duncan, puisqu'il est le deuxième meilleur marqueur devant David Robinson.
Parfait, c'est l'heure du quiz dans Basket Time.
J'ai pas trop coupé les cheveux en 4. C'est parti là en premier. C'est parti chez
Sting. Ouais, comme chaque semaine, c'est parti.
C'est parti là-bas en premier.
Et là,
premier.
C'est après ou pas?
C'est Alex.
Le roi des corvères ménagères.
Avec Bigger Staff, aujourd'hui. Qui est un énorme rageux du quiz. Voilà, c'est comme ça. C'est pas grave, hein, ça nous arrive à tous. Alors, donc, nous allons consacrer un nouveau champion. Ce sera soit Jokic, soit Butler. Nous faisons un quiz sur les joueurs, les grands joueurs de la NBA, jamais champions. Vous les connaissez tous, hein. Ce sont des grands thèmes souvent discutés, notamment dans Basket Time. Et donc, bah, chacune des réponses tourne autour de ces joueurs-là. Vous êtes prêts ?
Oui.
Pourquoi tu as ce petit sourire narquois, Stephen ? Tu as triché, tu as eu une petite...
Non.
Non.
Non, tu me fais rire, t'es dans tes explications.
Bah oui, je vous donne le thème.
C'est simple. Oui.
Je vous donne le thème.
Des fois, c'est quand même compliqué. Fois, c'est plus compliqué là.
Je vous rappelle qu'une fois, le thème, c'était les joueurs qui ont deux majuscules dans leur prénom ou dans leur nom. Stephen a mis la moitié du quiz à comprendre quel était le thème. Là, c'est plus simple. On va deviner un joueur jamais champion grâce à quelques-unes de ses grandes performances individuelles en carrière. Une longue carrière. Je vous donne comme ça, je vous égrène quelques performances incroyables. Ce joueur a marqué 51 points dans un match dès sa deuxième saison.
Chamberlain. La mer Noire.
C'était contre les Suns. Je vous conseille d'écouter
51 points contre les Suns.
Les indices quand même. En 2000, les Suns de Jason Kidd, donc pour sa deuxième saison en 2000. Il a fait une série de 11 matchs complètement affolantes lors de la saison 2005-2006. Une série qui commence et se termine
Tracy McGrady.
Par un match à 34 points. Le premier, c'était contre Denver, le dernier contre San Antonio. Au cours de cette série, il a 4 autres matchs à plus de 30 points, un match à plus de 40 points et un à 51 points.
Carmelo Anthony.
Et donc, il réédite son record en carrière. Cette série, d'ailleurs, c'est 10 victoires et une défaite. Donc, c'est quand même énorme sur son influence, sur les résultats de son équipe. Ce joueur, haute performance, a marqué 21 points à 42 ans avec le maillot des Kings.
Vince Carter.
Vince Carter. Et ça y est, il a trouvé. Bravo, Vince Carter.
Ouais.
C'était pas facile.
Non, c'était pas facile.
Non, c'était pas facile.
Donc le
vous
premier.
Vous pouvez pas nous dire, mais Midé Dunk a gagné les concours de Dunk. Non,
c'était dernier indice. C'était le concours de Dunk 2000. Donc le premier point, c'est pour Stephen. Ensuite, vous allez essayer de reconnaître un joueur grâce à sa voix. Voici une longue déclaration. On a 31 minutes devant nous pour deviner qui parle. Hein.
Man,
Allen Iverson.
I love y'all too.
Allen Iverson, wow. Bravo Arnaud. C'est Allen Iverson en 2016. Lors
c'est
de
le practice, tu
discours
sais,
d'intronisation
voix,
au Hall of Fame. Ça fait donc un point pour Steve et un point pour Arnaud. On cherche toujours un joueur jamais champion NBA. Alors, qui a été Most Improved Player en 2015, qui est 6 fois All-Star, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 et 2022, donc pas cette année, qui a joué avec plein de joueurs au cours de sa carrière, des Jamal Crawford, des Carlos Boozer, des Joel Embiid, Andrew Wiggins, Rip Hamilton, Dwayne Wade,
non, DeRozan, il... Non. Non, il est pas
et même Nikola Mirotic. Même Nikola Mirotic. Un joueur qui n'a que 13 sélections, mais qui est champion olympique en 2016 et qui tourne encore à 23 points,
là, cette année,
6 rebonds et 5 passes cette année. Et qui n'a pas dit son dernier mot pour
Jimmy
être champion.
Lavin.
Et c'est Jimmy Butler, tout simplement. Oh, oui. Ah là là. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher, Fred?
J'ai beaucoup plus loin. Ouais.
Bah oui, mais si c'était que Malone et Stockton, c'est facile.
J'avais que Malone, Stockton et Ewing. C'est tout.
Vous imaginez bien que j'ai pas fait un quiz autour de ce joueur-là. Sinon, ce serait trop simple. Charade. Mon premier.
Nom, prénom ou prénom et nom?
Prénom et nom, okay. D'accord. Fosbury, Rivers ou Cheney, mon premier s'accorde très bien avec ces trois noms. Mon deuxième,
Dick Vital,
est un chanteur, fils de chanteur.
Dikembe Mutombo.
Bravo.
Chanteur de quoi?
Un chanteur, fils de chanteur, M.
Ah, Dikembe.
Ouais. Et heureusement qu'on n'est pas allé plus loin. Sinon, tu m'arraches à la tête, ouais. Stephen. Mon troisième est le cri d'un mammifère herbivore ruminant marchant sur deux doigts.
Bé.
Mon quatrième est un mammifère herbivore ruminant marchant sur deux doigts. Et non. Mon cinquième est joli.
Ouais, bon. Oh, très bien. Bravo.
Mon tout a perdu la finale. Ah, je sais pas, oui, ça aurait pu être. Ouais, exactement. Et disons que c'était pas Iverson. Ouais. C'était ça, ouais, la
Sixers contre les Lakers où Dikembe il prend des coups de coude plein de tête de chaque, mon garçon.
Et le pire c'est qu'il défend pas si mal. Ouais, c'est bon. Ça. Et il va tout le temps, il se relève à chaque fois, il prend.
Ben, alors c'est intéressant parce qu'il y a deux points pour Stephen, pour Arnaud et un pour Fred. Voici une déclaration d'un joueur qui n'a jamais été champion NBA. Je me souviens qu'au début de ma carrière, on jouait contre Chicago et Mike était en manque de réussite ce soir-là. Je l'ai regardé, je lui ai dit, c'est toi Michael Jordan?
Je sais qui c'est.
Patrick Ewing?
Je l'ai marqué.
C'est
Reggie Miller.
Stark.
Reggie Miller. Exceptionnel. Fredo, passe des de Steve, qui a dit Ray quelque chose, il ne s'est pas sorti ensuite. Bon, ben bah voilà, on a fini. Donc 2 points pour Fred, 2 points pour Steve et 1 point pour Arnaud. Vous avez remarqué que je n'ai pas parlé ni de Karl Malone, ni de John Stockton. Je vous propose donc de me donner tous les joueurs de l'effectif de Utah Jazz 98. Un par un. Il n'y en a pas beaucoup des faciles. Hein. Il y en a 5 faciles, pas plus. Et encore facile.
97-98.
Ouais, 97-98, la dernière. C'est Arnaud qui démarre puisqu'il n'a qu'un point.
John Stockton.
Bravo, c'est le capitaine John Stockton. Fred?
J'hésite. Karl Malone?
Voilà, et ça va commencer à se compliquer. Donc, à toi, Steve.
J'en ai 2 en stock. Donc,
très bien. Bravo. Faut que tu sois tactique, exactement.
Je vais dire Brian Russell parce qu'il est sur la photo iconique, comme ça je me garde mon autre.
Mais c'est bien, mais je pense que t'as peut-être pas été très tactique. Arnaud?
Aucune idée.
Ah, aucune idée. Bon,
attends, si, je veux dire Smith.
Hein? Ah, ouais,
super!
Smith, sérieux, lui, quoi!
Je suis prêt à l'accorder, mais il n'y a pas de Smith.
C'est pour ça que tu étais prêt à l'accorder.
Non, mais s'il y avait eu un Joe Smith, je l'accordais. Hein.
Moi, je ne sais pas si c'est à la même époque, mais Hornacek.
Jeff Hornacek,
ah, oui.
Is a good answer.
On le sait, là.
Ma carotte est mon deuxième, Fred.
Alors, attends. Je peux vous donner quand même... Il y a encore un joueur trouvable.
Je vais te donner Greg Ostertag.
Et c'est exceptionnel.
C'est bien.
C'est exceptionnel. Alors, c'est simple. Là, vous êtes à égalité 4-4. Donc, je pense que vous séchez tous les deux.
Non, j'ai peut-être Howard Aisley, non?
Alors, attends. C'était à Fred de parler.
Non, mais je n'ai pas cité celui qui vient de citer.
Donc, celui qui vient de citer, il aura gagné. Voilà, non, il aura gagné voilà. Si tu n'en as pas un autre.
J'en ai pas d'autre.
Mais réfléchis, enfin. Je peux te donner un indice.
Vas-y.
Un mec, alors dans cette équipe, je pense qu'il n'avait aucun rôle, je suppose, parce qu'il est très jeune, c'est le plus jeune. Ensuite, il a joué aux Spurs et il a été assistant coach, je crois, des Spurs. Et il a un prénom français. Bon, tu l'auras pas.
Non.
Jack Vaughn.
Oh, faisait partie
de cette équipe. Donc tu me dis Howard Hisley. Ouais. Et bah, c'est une très bonne réponse. Bravo. Bravo Steve, tu as gagné ce quiz sur les grands joueurs qui n'ont jamais été champions NBA.
Bravo,
à la semaine prochaine.
RMC Basket Time.